Le renouvellement, ça a été le mot-clé des mois durant et c'est devenu une réalité à l'Assemblée. Apparemment, le renouvellement d'une sphère politique désormais plus jeune, plus fraîche, plus féminine aussi. Même si tout le monde l'a noté, quand on s'y penche de plus près en matière de diversité sociale, la notion de renouvellement est à nuancer. Il faut dire qu'on parle plutôt d'un souci de renouvellement, pour reprendre l'expression maintes fois répétée hier lors de l'annonce du nouveau gouvernement. Souci de renouvellement, c'est assez bien trouvé, parce que ce mot-clé de renouvellement, il pose un certain nombre de soucis, à commencer par son orthographe. Comment vous l'écrivez, vos renouvellements? Avec deux L ou un seul précédé d'un E accent grave? C'est une vraie question, tout aussi valable que celle de l'orthographe des mots oignon et nénuphar, puisqu'elle s'est posée au même moment quand les deux possibilités ont été approuvées par l'Académie française le 3 mai 1990. Pour beaucoup, vous noterez, ce renouvellement incarné par les rectifications orthographiques n'est ni bien vu ni bien vécu. Disons que c'est un souci. Les deux orthographes de renouvellement sont aujourd'hui tolérées, mais on utilise la traditionnelle plus volontiers, avec deux L plutôt qu'un seul. Alors de quel renouvellement est-ce qu'on parle précisément? Moi je veux bien que ce soit un mot-clé, mais c'est un mot-clé compliqué, c'est un souci, le renouvellement, je vous le dis.
France Inter. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Que qu'entend mon invité d'aujourd'hui lorsqu'est prononcé le mot renouvellement, lui dont les 98 printemps en font non seulement le doyen de nos lettres françaises, mais aussi un spectateur avisé de l'histoire politique de notre pays, romancier, poète, dramaturge, mais aussi académicien. Il a publié il y a quelques mois un recueil de citations, perles de vie ou précis de sagesse portative pour nous aider en toutes circonstances à faire le point. Bonjour René de Valdir.
Bonjour, bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Alors avant toute chose, comment vous l'écrivez, le mot renouvellement?
Alors écoutez, moi, je vous ai entendu, moi je mettrais volontiers trois L, voyez-vous.
Un académicien.
C'est plus une chose, mais j'ajouterais encore un L, ça serait plus aéré encore, si il me verrait des ailes.
Oui, vous travaillez à pas trop le renouveler quand même.
Non, ce serait un vrai renouvellement, voilà. De toute façon, le renouvellement, vous savez, à toutes les époques, quand on se renouvelle, je trouve pas les mots parce que je suis devenu presque centenaire, alors j'ai des troubles de mémoire.
Faites pas
attention. Mais en tout cas, voilà. Bon, pour renouvellement, effectivement, mais en principe, c'est renouvellement avec deux L, bien sûr.
Mais de quel œil est-ce que vous regardez ce grand renouvellement dont on nous parle en politique?
Vous savez, toutes les époques ont l'idée qu'elles se renouvellent, n'est-ce pas? C'est pas d'aujourd'hui.
C'est
une vieille histoire.
Vous avez vécu quand même sous la troisième, la quatrième, la cinquième république.
Je sais bien. Mais vous savez, quand on demandait à Max Jacob, je me souviens, on demandait qu'est-ce qu'il y a de neuf aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de renouvelé, Max Jacob répondait, oh, vous savez, depuis l'avènement de Jésus-Christ. Bon, alors voilà, bon, renouvellement, d'accord.
Okay. En fait, la question qui se pose à René de Obalia, c'est de savoir si le renouvellement est possible ou si l'on assiste en réalité à l'éternel recommencement du même, soit en politique ou ailleurs.
Oui, on revient toujours vers les mêmes valeurs, enfin vers les mêmes... En principe, puis l'homme, comment vous dirais-je, naturellement, adore changer, de penser qu'il va vers un monde meilleur, etc. Et on s'aperçoit dans l'histoire, malheureusement, que ce n'est pas toujours le cas.
Ça serait une utopie, alors, le renouvellement?
Oui et non, les choses ne sont pas si simples.
Et en littérature? Elle s'est posée la question du renouvellement pour
Chaque poète, chaque écrivain, dès l'instant qu'il a une personnalité très forte, il y a un renouvellement.
Comment on fait pour se renouveler?
Si je le savais, je le cacherais, parce que c'est tellement extraordinaire, ce que vous me dites, comment, je peux pas. Moi, vous savez, comme j'ai quelque peu traversé le siècle, je me suis renouvelé, bien sûr, plusieurs fois, n'est-ce pas? Mais sans faire exprès.
Aujourd'hui, vous n'écrivez plus, René de Obalia, vous avez arrêté d'écrire.
Oui, parce que tout de même, j'ai pas mal d'enfants déjà spirituels, j'en ai beaucoup. Et puis voilà, il y a des temps pour tout, comme dit l'Ecclésiaste. Et voilà. Et donc, je suis très content d'avoir publié ces perles de vie, parce que là, ce sont des aphorismes, des pensées que j'avais, dont j'avais parlé à mon éditeur, qui était assez singulière. Et alors, il avait beaucoup apprécié, mais il m'avait dit, oh, René, si vous pouviez en avoir davantage, on pourrait peut-être en faire un petit volume. Alors, je suis plongé dans mes anciens carnets de travail où je notais, mais pour moi-même, sans idée de publication, bien sûr, et des choses, des pensées justement qui m'avaient frappé. Et donc j'ai pu les réunir dans Perles de vie. avec le sous-titre que vous avez indiqué, je vois précis,
de sagesse portative,
parce que ça se met dans la poche facilement, c'est un volume, donc on peut le lire dans le métro, dans l'autobus, dans l'hélicoptère, même. Hein,
et l'idée, c'est de mieux vivre.
Pardon.
L'idée, c'est de mieux vivre grâce à ces
citations. C'est-à-dire au moins d'avoir une réflexion sur la vie, hein, une pensée sur la vie, et sur des, ce sont des pensées, des aphorismes qui font réfléchir, et qui vont de Chuang Tzu, de Confucius, de Chinois comme ça, des sages, à Platon, et en même temps Alexandre Vialat, aussi bien qu'à d'autres.
Passons par Cocteau, Tolstoï, Nabokov, Artaud, Saint-Augustin, Paul Valéry, Jules Renard, et un certain Obaldia. Vous le connaissez, vous ?
Qui cela ?
Cet Obaldia,
non,
qui apparaît.
Non, vraiment pas.
Vous
ne
le connaissez pas.
C'est un grand mystère.
Oui.
C'est un grand mystère. Vous savez, non, mais c'est très curieux ce que vous dites là, parce que dans le journal de Kafka, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé. Kafka dit « J'ai peu de choses en commun avec moi-même ». C'est une phrase de Kafka qui m'a beaucoup frappé, parce que moi, j'avoue que cet Obaldia continue de m'intriguer. Et parmi les... ce qui me vient à l'esprit, c'est que parmi les articles qui ont été consacrés, il y en a eu beaucoup, il y en a un de Jérôme Garcin, qui me vient à l'esprit, et qui, je crois, approche de plus la réalité d'Obaldia. Alors, il faut que je m'en souvienne, attendez. Obaldia, voilà. Obaldia est le spectateur incrédule d'une pièce qu'il n'a pas écrite, mis en scène à son insu, et dont il joue le rôle titre, sa vie. Et j'ai trouvé ça très intéressant, ça m'est revenu à l'esprit, parce que ça me définit quelque peu. Je ne sais pas vraiment qui est Obaldia.
Ce qui est très beau dans ce projet, c'est aussi qu'il nous dit quelque chose de la place et de l'importance de la littérature, à mon sens, et des livres. Si je vous dis, par exemple, un livre doit être la hache pour la mer gelée en nous.
Ah oui, c'est joli, c'est Valéry, je crois.
C'est Kafka.
C'est Kafka, oui.
C'est joli. Comment vous l'entendez-vous, cette phrase, René de Obaldia? Parce qu'on n'est pas loin de Basic Instinct, là, avec le pic à glace. Hein.
Oui.
Quelque chose de...
Non, c'est quelque chose, c'est une rupture, bien sûr, c'est une rupture de notre faculté de dormir, d'être congelé, si je peux dire.
Comparer le livre à une hache, ouais. Ça fait aussi de l'expérience de lecteur une expérience violente.
Bien sûr. Enfin, oui, c'est
le cas pour vous ?
Pardon ?
Il y a une violence salutaire pour vous dans la littérature ?
Oui, bien sûr. Mais vous savez, comment vous dirais-je, il y a quand même une grâce. Faut pas non plus exagérer. Il y a la grâce d'écrire, et la grâce, elle est gratuite par nature. On ne peut que remercier la grâce. Vous savez, ça me fait penser que des gens comme Valéry, par exemple, qui se méfiaient de l'inspiration, comme vous savez, énormément, comme Mallarmé d'ailleurs, à un moment donné, Valéry a quand même écrit « Tel vers nous vient des dieux ». Et puis il ajoutait « Mais quel boulot après pour se mettre à la hauteur hein ?» Et vraiment, c'est une phrase de Valéry. Et c'était une pensée de Valéry. Et effectivement, il y a la grâce. Et la grâce, on doit remercier le ciel, je sais pas. Et puis ensuite, il y a le travail, bien sûr.
Celle qui est pleine de grâce dans cette émission, sans doute la connaissez-vous, René de Obaldia, c'est la culture et son actualité complètement marteau. Et pique à glace, que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 22 juin ?
1, 2, 3, partez !
C'est parti !
C'est parti pour la 13e édition du Marathon des mots, le rendez-vous littéraire énergisant de la ville de Toulouse. Jusqu'à dimanche, la Cité Rose met à l'honneur l'Amérique latine et la France de profil en proposant près de 180 événements répartis dans 60 lieux. Dans les starting blocks, on trouve notamment le Cubain Leonardo Padura, le Vénézuélien Rodrigo Blanco Calderón ou Zoé Valdés qui sera notre invité mercredi prochain. Muy bien. Elle vous dit quelque chose, cette petite guitare funky René? Rien de plus normal. Les Daft Punk, associés à Parcells, le jeune groupe australien qui monte, viennent de révéler ce morceau groovy à mort, titré Overnight et produit par le duo casqué français. Le titre rappelle joliment leur tube de 2013, Get Lucky, et c'est tant mieux. Souriez, dansez, c'est l'été.
We are writing books. And the idea is just to kind of like make people love reading again and...
Féministe et à la page, l'actrice britannique Emma Watson, ambassadrice de l'ONU Femmes, a profité de sa venue à Paris pour organiser un cache-cache littéraire et engager dans les rues de la capitale. La jeune femme a caché 100 exemplaires de La Servante Écarlate, la dystopie féministe signée Margaret Atwood et récemment adaptée en série. 4 exemplaires ont déjà été découverts, alors parisienne, parisien, du nerf.
Girls, 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 girls
Les Girls à l'honneur de la première édition du festival solidaire organisé par le magazine Cosette à Bordeaux. L'idée proposait un événement transculturel doté d'une programmation qui fait la part belle aux femmes. Jusqu'à dimanche, il y aura du cinéma avec Amandine Gay, du théâtre avec Evansler, des débats sur le muffisme et bien sûr du bon son avec Cléa Vincent ou Rebecca Warrior de Sexy Sushi. You go girls! René de Obaldia, invité de Boomerang ce matin pour Perles de vie, on en parlait, dont la préface a quelque chose de bouleversant. Vous écrivez, René, je vais bientôt me quitter, oui, disparaître de cette planète. Qu'est-ce que vous entendez par me quitter? Qu'est-ce qu'elle suggère, cette forme pronominale?
Eh bien, écoutez, c'est très mystérieux, c'est le problème de la mort, bien sûr. Alors, sur ce sujet, c'est un sujet inépuisable, et effectivement... Je vais me quitter. Je ne vais pas. C'est qui a dit à un moment donné, lorsque je serai mort, je vais me regretter. Je ne vais pas jusque là. Je ne sais pas. Mais effectivement, je vais me quitter. Ce moi qui vous passe en ce moment, dans quelques temps, dans très peu de temps, va disparaître. Et donc, c'est le problème de la mort.
Mais vous êtes encore fringant, René.
Oui, je suis encore fringant. C'est une chance, c'est une grâce. Mais enfin, je veux dire, la question de la mort reste là. Et alors, il est dans Perles de vie, justement, j'ai cité différentes choses de la mort. Et il y a un mot de Cocteau que j'aime beaucoup. Je cite assez souvent Cocteau qui a des mots assez extraordinaires. Et quand on demande à Cocteau qu'est-ce que vous pensez de la mort, et Cocteau répond la mort. Mais je suis habitué. Je suis habitué. Il dit comment ça vous êtes habitué? Il dit oui, je suis mort. J'ai été mort si longtemps avant ma naissance. C'est très joli. Et puis il y a des boutades aussi. Il y a Jean Paulhan qui faisait des boutades. Il dit la mort, oh, pourvu que j'arrive jusque-là. C'est une boutade. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire, bien sûr, sur ce sujet.
Que vous regardez derrière vous.
Comment, oui.
Quand vous regardez derrière vous, qu'est-ce que vous voyez?
Eh bien, je vois le pathétique de l'homme. Si je regarde derrière moi, c'est l'interrogation, c'est qu'est-ce que l'homme, hein? Et bon, j'ai traversé le siècle, effectivement, et j'ai été, en plus de ça, prisonnier chez les nazis pendant 4 ans et demi. J'ai vécu, bon, beaucoup de choses, mais je suis vivant, je suis devant vous, hein, voilà. Mais je veux dire que ce qui me... Qu'est-ce que l'homme, en fin de compte? Qu'est-ce que l'homme? Et puis après tout, j'ai un confrère que j'ai perdu de vue depuis longtemps, qui s'appelait William Shakespeare, quelque chose comme ça. Et quand il a dit « to be or not to be », après tout, il a dit tout ce qu'il voulait, parce que les destins sont incroyables. Je suis né à Hong Kong, comme vous savez, je suis né en Chine, à Panaméa. Bon, mais que je sois né à Hong Kong ou à je sais pas, à Asnières, le problème, c'est d'être. C'est ça qui était absolument invraisemblable.
Mais peut-être quand même que pour s'habituer à la mort, parce que vous en parlez aussi librement, il faut l'avoir côtoyé, il faut l'avoir frôlé... Il faut lui avoir survécu. René de Obaldia, vous le disiez, vous avez été prisonnier pendant 4 ans,
oui,
dans un stalag pendant la Seconde Guerre mondiale.
Même, oui.
Quel homme vous étiez en arrivant là-bas? Quel homme vous étiez quand vous en êtes parti?
Eh bien, j'étais... D'abord, quand j'étais là, j'avais 21 ans, et comme on disait, c'est la guerre déclarée, et selon l'expression qui a toujours fait sourire, d'ailleurs, j'ai rejoint mon corps. Hein, j'ai rejoint mon corps, c'est le 41e régiment d'infanterie, etc. Et puis ensuite, bon, nous avons été écrasés sur le champ. C'est une chance, d'ailleurs. C'est une chose très curieuse que je vais vous dire. En 14-18, c'était la boucherie. Hein, c'est une véritable boucherie. Hein. Et là, lorsque j'ai pris lutté contre les Allemands, on était écrasés sur le champ. Moi, j'avais, devant les chars allemands, un fusil Lebel qui datait de la guerre de 14. Voilà. Et si on n'avait pas été écrasé sur le champ, si on avait lutté à armes égales, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Une autre génération, la mienne, aurait été anéantie, encore plus que celle de 14. Donc, bizarrement, il y a une chance d'avoir été écrasé sur le champ par les Allemands. C'est évidemment, ça peut faire bondir certains, mais j'en suis persuadé.
Quand vous parlez de l'homme que vous regardez
Donc, si vous voulez, lorsqu'on est dans un camp de prisonniers comme ça, il y a plus d'avoir. Donc, il y a des valeurs d'être. Et ce qui est merveilleux, c'est la découverte de l'être, et non plus de l'avoir, puisqu'on n'a rien. Et on s'aperçoit que vous avez quelqu'un qui paraissait très important, qui sait des tas de choses, il se trouve devant un pleutre, devant tel Allemand, alors qu'un ouvrier boulanger qui passait devient un héros, devient un homme extraordinaire. Ce sont des valeurs d'être que j'ai rencontrées. Et donc j'ai fait, si vous voulez, une connaissance de l'homme très rapide. Hein, et que j'ai une expérience évidemment assez considérable.
C'est une question que je me pose tout le temps. Qu'est-ce qui peut changer un homme pour vous?
Ce qui peut changer un homme, d'abord, les destins. C'est très imprévisible. Il y a des drames, il y a la santé, il y a les disparitions, il y a la mort. La mort, c'est pas vraiment une chose pour soi-même qui est importante, parce qu'on meurt. Ce qui est très dur, c'est la mort des êtres chers, en fait. C'est ça qui est très dur.
Et la joie?
Ben, la joie, c'est une chose merveilleuse.
Elle peut changer les gens?
Mais bien sûr.
Et qu'est-ce qui vous rend joyeux, vous?
Pardon?
Qu'est-ce qui vous rend joyeux, vous?
Ce qui me rend joyeux, parce que c'est, en général, c'est les échanges. C'est les échanges avec. D'abord, c'est l'amour. C'est quand même la chose la plus extraordinaire du monde, la plus merveilleuse. Mais non seulement l'amour de l'homme pour la femme, mais l'amour des autres, c'est l'humanité, en fait. Et il n'y a rien de plus merveilleux que de fraterniser, que cette fraternité avec les autres. C'est une source de joie.
Alors, de l'amour, de la joie, on va en partager ce matin et on écoute, hein, quand même. Charles Trenet, il y a de la joie. 38, vous aviez 20 ans. Oui. René, ça tombe bien parce qu'on a tous 20 ans ce matin. Pourquoi? Parce qu'on est sur France Inter avec René de Obaldia, qu'on écoute Boomerang avec un bon kawa et qu'il y a de la joie.
Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour. Qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie, partout il y a de la joie. Le gris boulanger bat la pâte à plein bras, il fait du pain si fin que j'ai faim. On voit le facteur qui s'envole là-bas, comme un ange bleu portant ses lettres au bon Dieu. Miracle sans nom, à la station Javel, on voit le métro qui sort de son tunnel, grisé de soleil, de chansons et de fleurs. Il court vers le bois, il court à toute vapeur, et il y a de la joie. La tour Eiffel part en balade comme une folle. Elle saute la Seine à pieds joints, puis elle dit: tant pis pour moi si je suis malade, je m'embêtais toute seule dans mon coin. Et il y a de la joie. Le percepteur met sa jaquette plie boutique et dit d'un air très doux, bien le bonjour. Pour aujourd'hui, fini la quête, gardez tout, messieurs, gardez tout. Mais voilà que soudain, je m'éveille dans mon lit. Donc j'avais rêvé, oui, car le ciel est gris. Il faut se lever, se laver, se vêtir et ne plus chanter si l'on n'a plus rien à dire. Et je crois pourtant que ce rêve a du bon, car il m'a permis de faire une chanson. Chanson de printemps, chansonnette d'amour, chanson de 20 ans, chanson de toujours. Et il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la... Tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi. C'est l'amour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Il est le plus délicieux des immortels, ses yeux bleus, pleins d'une malice enfantine, son sourire en coin, tantôt bienveillant, tantôt lapidaire, son crâne fragile et chenu, et cette inimitable mignonnerie qui emplit notre petit studio avec sa veste bleue, un tantinet rayé, chemise rose, éminemment élégant. René de Obaldia, invité de Boomerang ce matin, pour revenir sur une vie de littérature, une vie guidée par les réflexions d'artistes, penseurs, poètes, écrivains, une vie que vous n'avez pas fait que consacrer à la lecture, mais aussi à l'écriture. Écrire, qu'est-ce que ça veut dire pour vous?
C'est tout simplement s'exprimer, c'est de communiquer. Moi, ce qui m'a toujours intéressé dans l'écriture, pourquoi écrivez-vous? C'est une question qu'on pose aux surréalistes.
C'est la plus belle question.
Pourquoi écrivez-vous? Alors, il y a eu des réponses curieuses. il y avait ceux qui voulaient dire, je veux être célèbre, je veux être riche. Mais il y avait Mauriac qui disait, à peu de choses près, c'est pour emmerder ma famille. Hein, c'était une chose comme ça, la petite bourgeoisie catholique, Mauriac la tolérait pas, bien sûr.
Et vous, pourquoi écrivez-vous?
Pour communiquer, tout simplement. Pour communiquer. Et quand je suis revenu de guerre, je n'avais pas de situation financière très compliquée. Si j'avais voulu être peintre, je n'aurais pas pu, parce qu'il fallait acheter des tubes de couleur, il fallait avoir un atelier. Le plus simple pour moi, c'est de prendre un papier, un crayon. Voilà. Et c'était de communiquer, ce désir de communiquer avec les autres. Voilà.
Écrire, c'est donner une profondeur au silence, disait Joël Bousquet que vous citez. Sur quel silence votre désir d'écriture s'est-il greffé, vous, René de Obaldia? Écrire, dit-il, c'est donner une profondeur au silence.
Oui, mais oui, c'est une formule, c'est une très belle formule, bien sûr.
Il y a des silences chez vous?
Bon, bien sûr, mais le silence est très important. Autrement, s'il n'y avait pas le silence, il n'y aurait pas la parole, je veux dire, fatalement. Mais bien sûr.
Vous avez écrit des romans, des pièces, on se souvient notamment de Du vent dans les branches de Sassafras, des poèmes aussi, et l'usage que vous avez fait toutes ces années de la langue vous a valu la création d'un adjectif, obaldien. C'est une vraie question. Qu'est-ce donc que cette langue obaldienne? Qu'est-ce qui la caractérise?
Alors là, écoutez, vous demandez ça à l'auteur.
Ah, vous avez...
Mais j'ai des tas d'articles critiques, tout ça. C'est au fond, comment vous dirais-je pour moi-même, j'ai eu très tôt le sentiment tragique de la vie, selon le mot de Calderon, je crois. Le sentiment tragique de la vie. Ça m'a toujours habité très très tôt. Et alors, de deux choses l'une, on refuse la vie, ou au contraire, pour moi, l'humour, puisque je fais rire énormément, l'humour est là qui fait que je supporte ce sentiment tragique de la vie. Et l'humour, bon, la définition de l'humour, c'est déjà, définir l'humour, c'est déjà un manque d'humour, d'une certaine manière, hein, faut faire très attention. Mais je dirais que pour moi, c'est une surabondance de gravité.
Il faut, c'est ça, cultiver un certain regard sur le monde et la vie pour être obaldien.
Oui, oui.
Et la phrase que vous venez de citer m'en évoque une autre. La vie est une tragédie pour ceux qui la sentent et une comédie pour ceux qui la pensent. Ça, c'est Horace Walpole que vous citez.
Oui, absolument. C'est très, très intéressant. De même que sur le pessimiste et l'optimiste, il n'y a pas tellement de différence entre le pessimiste et l'optimiste, simplement le pessimiste est plus informé.
Peut-être qu'il faut nous faire entendre cette langue obaldienne, René de Obaldia. Vous avez choisi de nous lire un texte ce matin, un texte que vous avez écrit il y a 58 ans et qui s'appelle Le Centenaire.
Mais oui, j'avais écrit à cet âge-là, il y a plus de 50 ans, j'avais 30 ans, j'ai écrit mes mémoires de centenaire.
Convenez que c'est cocasse.
J'avais pris les devants. Mais sans me douter quand même à l'époque, je l'ai rejoint mon personnage. Hein. Alors évidemment, je peux vous lire un extrait du centenaire qui évoque là une femme qu'il a aimée, qui a disparu, qui est morte, et il veut la reprendre de son tombeau, lui faire une promenade avec elle. Et ça s'appelle Agnès. Alors il dit voilà. Agnès, ma bergère enfouie dans la terre, je te nomme, je t'invite, viens. Allons nous promener au clair de lune. Les portes du tombeau s'ouvrent au souffle de l'amour. Un simple rideau de poussière sépare les morts des vivants. Viens, je t'emmène, léger sont tes doigts. Une brise secrète nous touche l'épaule. Tu es vêtu de ta robe d'il y a 1000 ans. Ta robe à volant que je dégrafais si mal. Et tu riais de ma maladresse. Tu n'as pas changé, tu marches du même pas d'enfant abandonné. Je suis là, je suis là. Ta longue chevelure de neige embaume le sentier. Agnès, tu es belle, si blanche, lisse comme à 20 ans. J'ai honte de mes rides, efface-les d'un geste de ta main. Empruntons ce sentier en contrebas. Oui, j'entends aussi les violettes. À son tour, la lune devient violette, une lumière qui n'est plus d'ici. Des galops souterrains sourdent jusqu'en mes os. Agnès, arrêtons-nous. Je veux me mettre à genoux devant toi, enlacer tes cuisses, ma tête contre ton ventre et tomber en poussière.
Le problème, c'est que vous en avez fait rougir plus d'une, René, là, avec ce texte, à mon avis. C'est fringant, encore une fois. Dans votre livre, il y a cette phrase, pour devenir centenaire, il faut commencer jeune.
Oui, c'est un proverbe russe.
C'est une vraie question. À quel âge est-ce que vous avez commencé à devenir centenaire,
vous? Bon, vous savez, ça, je ne peux pas vous dire.
Si vous avez écrit ce texte il y a 58 ans qui s'appelle Le Centenaire.
Oui, mais parce que je vous dis, c'était pour moi. Du reste, ce livre qui s'appelle Le Centenaire a été très bien reçu dans l'ensemble, mais c'était un livre un peu difficile. Et je me souviens d'un critique qui avait dit, mais sans méchanceté, à son propos, du gâtisme considéré comme un des beaux-arts. Et qui était assez juste sur ce plan, parce que mon centenaire délire, bien sûr, de temps en temps, il délire.
On commence à se sentir jeune à 50 ans, et alors? Il est trop tard. Ah, ça, c'est une citation de Picasso.
Ah oui.
Trop tard pourquoi?
Eh bien, il est trop tard pour être vraiment jeune. Enfin, je sais pas. Il est trop tard pour certaines jeunesses, pour une certaine époque. Il est en créateur.
Mais
enfin.
Qu'est-ce que vous n'avez, par exemple, pour vous, qu'est-ce que vous n'avez pas fait que vous auriez aimé faire, René de Obaldia?
Oh, je ne sais pas, être champion de tennis.
Ah bon?
Non, mais que voulez-vous? Non, j'ai obéi à ma vocation. Et voilà, je ne peux pas vous dire ce que...
Aucun regret?
Oh ben si, on a toujours le regret de pouvoir d'être mieux qu'on est, on a toujours un regret de ne pas atteindre certaines... Enfin, je veux dire, ça serait trop présomptueux de dire qu'on est très satisfait, pas du tout. On a toujours un manque, on a toujours en soi quelque chose qu'on n'a pas assez donné. Pour les aides qui ont disparu, on a l'impression qu'on n'a pas fait assez, etc. On a des regrets, bien sûr.
Mais de quoi êtes-vous le plus satisfait, le plus heureux, le plus fier, peut-être?
Le plus heureux, c'est quand mes textes, justement, font que les gens sont heureux de me lire. Et justement, il y a une chose, un fleuron de ma couronne, si je peux dire, qu'on n'a pas cité, c'est mes Innocentines.
Sure.
J'ai écrit des poèmes pour enfants et quelques adultes.
Qu'on a étudié à l'école pour certains.
Et voilà, alors, ben, j'ai la chance que... Alors, c'est une aventure que je vais raconter. J'ai la chance qu'effectivement, beaucoup de ces poèmes sont dans les manuels scolaires. Et il m'est arrivé dernièrement une histoire que je vais raconter. J'ai une amie que je rencontre dans la rue. Elle avait à son bras une amie que je ne connaissais pas. Elle me présente et je présente René de Obaldia. Elle dit « Ah, Obaldia, je vous croyais mort !» Alors, je me suis excusé d'être vivant. Je voulais que je fasse, moi. Je me suis excusé d'être vivant. Mais tout simplement parce que son fils, justement, son petit, qui avait 8 ans, disait mes poèmes. Et donc, elle disait « Sully Prudhomme, François Copé, Théodore de Banville, José Imman, jusqu'à Prévert quand même, voilà. »
Et un certain Obaldia.
Donc, je ne devais plus être là. Voilà.
Merci. Merci infiniment, René de Obaldia, d'être venu faire un tour dans Boomerang. Ne vous excusez jamais d'être et de vivre. Je vous rappelle que Perle de Vie, votre petit précis de sagesse portatif, est publié chez Grasset. C'est délicieux, c'est obaldien, c'est bien. Et tout de suite, la très obaldienne Sonia de Villers, juste après ça.
Unconditional, Venus by my side, uncontainable. No way you can hide, it's something to know. No matter where you are, the Venus light is shining in your star. And it's back in my heart again, saying that you do. Indivisible, loving inside you. It's nothing to know, knowing that you are. The Venus light is shining in your star.
Conditional, Nick Mulvey sur France Inter, et c'est l'heure de l'instant M avec Sonia de Villers.
Alors d'un seul coup, je suis obaldienne.
Ah, tout à fait.
C'est vrai?
Moi, je l'ai toujours dit.
Bon.
Je l'ai toujours dit dans mon entourage pour être obaldienne.
Je n'y crois pas du tout.
Je vous embrasse, je vous dis à demain.
Salut Augustin. Salut.